Bon, Sylvain, nous allons commencer. Je rappelle tout d'abord le séminaire de cette matinée. Tout à l'heure, à 11h, ce sera Jean Daliba, du laboratoire Cassia-Brossel, qui va nous parler de l'expérience du baquet tournant avec un condensat de rubidium, nucléation et dynamique des tourbillons quantiques. Et puis, à partir de mardi prochain jusqu'à la fin du mois de novembre, le 20 novembre et le 27 novembre, ce sera le professeur Alan Griffin de l'Université de Toronto, que je suis heureux de saluer ici, il est dans la salle, qui nous fera donc deux conférences en tant que professeur invité sur la chaire du Collège de France réservée aux visiteurs étrangers, sur Two Fluid Hydrodynamics of Trap Both Gases. Et il fera également deux séminaires à Grenoble, à l'Institut Langevin. Donc, je commence le cours d'aujourd'hui, qui est un petit peu la suite du cours de la semaine dernière, et qui étudie le lien qui existe entre les tourbillons quantiques et les modes propres de vibration. Vous vous rappelez que la semaine dernière, j'ai introduit les tourbillons quantiques. J'ai montré que c'était des états d'un condensat où toutes les particules condensées, tous les atomes condensés, avaient tout un moment cinétique non nul. Alors que dans un condensat ordinaire, elles ont tout un moment cinétique nul et il peut y avoir une excitation élémentaire qui a une unité ou deux unités de moment cinétique. Ici, c'est tous les atomes condensés ont un moment cinétique H bar, 2 H bar, 3 H bar, et ainsi de suite. Alors, le problème, j'étudie en détail la structure de ces tourbillons, la dimension de leur cœur, où la densité spatiale s'annule, et j'ai montré le point important, c'est que la circulation de la vitesse sur un contour quelconque entourant l'axe du tourbillon est quantifiée en unité de la circulation élémentaire H sur M. Alors, la question se pose, et je voudrais y consacrer la séance d'aujourd'hui, comment détecter la présence d'un tourbillon? Alors, évidemment, la première idée serait de dire la chose suivante. Le tourbillon correspond à un mouvement d'ensemble du fluide, donc la dépendance, la phase de la fonction d'onde est non nulle, et elle varie en puissance IKR. Et en faisant interférer donc la fonction d'onde du tourbillon avec une fonction d'onde de référence immobile, on devrait avoir des franges d'interférence, et qui permettrait de mesurer la vitesse de mouvement d'ensemble du tourbillon. Cette méthode a été effectivement utilisée, mais ce n'est pas celle que je vais exposer ici. Je vais me poser la question suivante. Est-ce qu'il est possible de détecter la présence d'un tourbillon quantique dans un condensat par une modification de la fréquence des modes propres de vibration? En effet, nous savons que c'est facile, enfin c'est courant de mesurer les modes propres de vibration et de mesurer leur fréquence avec une précision qui est en général bonne. Sinon très bonne. Donc, si jamais la présence du tourbillon se traduisait par une modification légère de ses fréquences, on pourrait la mesurer et détecter indirectement donc la présence du tourbillon dans le condensat. Et on tirait des informations. La mesure du déplacement de fréquence permettrait de déterminer, d'obtenir des informations sur les caractéristiques du tourbillon, en particulier sur le moment cinétique par particule. Donc ça, c'est un premier point. Et ce que je vais faire donc dans ce cours, c'est d'abord vous donner le principe de la méthode, puis je calculerai un ordre de grandeur du déplacement de fréquence attendu, très simplement, et nous verrons un petit peu à quoi il ressemble, puis nous essaierons de faire un calcul plus précis, et pour cela j'utiliserai la méthode des règles de somme que j'ai introduite dans le cours numéro 2 de cette année. Et nous verrons que la méthode des règles de somme est particulièrement bien adaptée pour étudier ce problème et pour déterminer de manière précise le décalage de fréquence. Cette méthode, néanmoins, utilise certaines approximations pour mener le calcul jusqu'au bout, et dans une quatrième partie, j'essaierai de faire un calcul plus précis qui est valable non seulement pour le gaz à la limite de Thomas Fermi, mais également pour le gaz parfait où les interactions sont nulles. Et enfin, comme les calculs sont quand même relativement complexes dans le cas d'un vrai tourbillon dans un condensat à la limite de Thomas Fermi, je prendrai un exemple un peu académique, un tourbillon dans un tore, dans un récipient torique, parce que là, les calculs peuvent être menés jusqu'au bout et nous verrons qu'on obtient un facteur de près exactement la même formule que précédemment. Alors, je précise tout de suite que je suis ici, on est en, de très près, la méthode exposée dans l'article de Zambelli et de Stringari, paru en 98, et je vais donc, c'est cette conférence que je vais suivre de très près. Alors, je passe maintenant au principe de la méthode. Je reviens au cours 2, et au cours 2, j'avais introduit deux modes importants, qui étaient les modes quadrupolaires dans un condensat sphérique, qui sont également simples à étudier dans un condensat ayant la symétrie cylindrique, et j'avais considéré des modes quadrupolaires M égale plus 2 et M égale moins 2, M étant le nombre quantique, disons, qui caractérise le moment cinétique autour de l'axe Z. Et j'avais pris donc des modes M égale plus 2 et M égale moins 2, et je vais appeler, les notations sont importantes, je vais appeler oméga plus la fréquence du mode quadrupolaire M égale 2, et oméga moins la fréquence du mode quadrupolaire M égale moins 2. Et on avait étudié la structure, la forme de ces modes, et vous vous rappelez qu'on avait trouvé que c'était une déformation elliptique dans le plan perpendiculaire à l'axe Z, donc dans le plan XY, et cette ellipse, qui est donc une déformation du condensat, tourne à la fréquence oméga plus sur 2 pour le mode plus 2, pour le mode M égale plus 2, et oméga moins sur 2, pour le mode M égale moins 2. Pourquoi le 1/2, ça c'est important, il ne faut pas faire le facteur 2 dans cette histoire, pourquoi le mode 1/2, c'est parce que la dépendance en phi c'est épuissance I M phi, et si on prend M égale 2, on aura épuissance 2 I phi moins oméga t, de sorte que la vitesse angulaire de l'axe phi, c'est oméga t sur 2, oméga plus t sur 2 ou oméga moins t sur 2. Et je vous rappelle aussi que pour un condensat sphérique, oméga Q est égal à oméga 0 racine de 2, alors que pour un condensat cylindrique, de symétrie de révolution autour de l'axe Z, oméga plus c'est oméga perpendiculaire racine de 2. Donc ces deux modes, c'est donc deux ellipses qui tournent avec des vitesses angulaires oméga plus sur 2 et oméga moins sur 2. Si je prends maintenant le mode en x2 moins y2, le mode en x2 moins y2, c'est une superposition linéaire du mode m égale plus 2 et m égale moins 2. Donc on prend ces deux hélices, on en prend une superposition linéaire, et elles tombent comme ceci. Alors, à un moment donné, elles sont leurs axes coïncident, et on obtient donc une déformation quadrupolaire sur y. Un quart de période après, leur axe va coïncider sur l'axe x, on va avoir une ellipse le long de l'axe x, et une demi-période après, on va avoir de nouveau une ellipse d'axe y, on va retrouver la même situation que précédemment. Donc on voit qu'au bout d'une demi-période de la rotation de l'ellipse, je retrouve la même déformation quadrupolaire. Donc la déformation quadrupolaire va vibrer à la fréquence oméga plus, à la fréquence oméga q. Et à quoi ça va ressembler cette vibration? On va avoir un quadrupole qui va vibrer en passant d'une ellipse le long de x avec un grand axe le long de y à une ellipse avec un grand axe le long de y, et réciproquement en gardant des axes fixes. Donc on aura une déformation quadrupolaire d'axe fixe et de fréquence oméga q. D'accord? Alors que les ellipses, elles tournent à oméga plus sur 2 et oméga moins sur 2. Donc ceci étant rappelé, je reviens ici, et la question qu'on se pose, est-ce que ces deux vitesses angulaires vont être modifiées par la présence d'un tourbillon d'axe Z? En effet, pardon. En effet, en l'absence de tourbillon, le système est évidemment invariant par renversement du sens du temps, et on en déduit que oméga plus est égal à oméga moins, est égal à oméga cube. Donc les deux déformations elliptiques tournent à la même vitesse, et le mode en x2 moins y2 va vibrer, donc avoir une déformation quadrupolaire d'axe fixe. Si on introduit un tourbillon, le système n'est plus invariant par renversement du sens du temps, et on sent bien que l'ellipse qui tourne dans le même sens que le tourbillon va avoir sa fréquence déplacée d'une quantité différente de celle qui tourne en sens inverse. On a une dissymétrie des deux sens de rotation par rapport au sens de rotation introduit par le tourbillon. Donc on s'attend à ce que oméga plus moins oméga moins, maintenant n'est plus égal à 0, mais est égal à delta oméga, différent de 0. Alors, ça se traduit par quoi ça? Ça se traduit que, enfin, si je prends maintenant le mode en x2 moins y2, les deux ellipses qui tournaient à des fréquences égales et opposées, oméga plus sur 2, oméga moins sur 2, vont tourner à des fréquences différentes, et leur bisectrice, la bisectrice des axes, des grands axes des deux ellipses, va tourner à la moitié de la différence entre oméga plus sur 2 et oméga moins sur 2, qui est la vitesse de rotation des grands axes des ellipses. Donc elle va tourner à oméga plus moins oméga moins sur 4. D'accord? Donc on va avoir maintenant deux ellipses qui tournent à des vitesses différentes, et leur bisectrice tourne à la séquence oméga plus moins oméga moins sur 4. Et si je me place dans ce référentiel tournant, je vais avoir une déformation quadrupolaire, donc dans ces axes, qui va être l'axe fixe dans ce référentiel tournant, et on va donc avoir une déformation quadrupolaire qui ne vibrera plus avec des axes fixes, mais avec des axes qui tournent à la vitesse oméga plus moins oméga moins sur 4. La fréquence de vibration dans le système d'axes qui tourne étant égale à oméga plus plus oméga moins sur 2. D'accord? Alors, échelle maintenant, comment peut-on faire? On peut introduire brusquement une déformation quadrupolaire sur le condensat, l'écraser dans une direction et puis lâcher. À ce moment-là, cette déformation quadrupolaire va bouger. Mais si on la regarde à des instants différents, on va voir qu'elle vibre autour d'axes qui tournent avec la fréquence oméga plus moins oméga moins sur 4. Et en mesurant donc la vitesse à laquelle les axes de la déformation quadrupolaire tournent, on mesure oméga plus moins oméga moins sur 4. Donc expérimentalement, et je pense que Jean Dalibard tout à l'heure dans le séminaire qu'il va faire vous donnera des courbes expérimentales, expérimentalement on mesure donc qu'on est capable de remonter à oméga plus moins oméga moins. Alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est calculer un ordre de grandeur. Et je vais le faire, si vous voulez, en tableau. Parce qu'on peut faire un calcul. Là, ce sont des calculs très simples. Alors, le condensat tourne, il y a un mouvement d'ensemble de vitesse V lié au tourbillon. Et je vais appeler delta oméga la variation de fréquence du mode m égale plus 2 ou du mode m égale moins 2, lié donc à cette vitesse d'ensemble. Alors, on utilise une formule analogue à celle de l'effet Doppler, delta oméga sur oméga égale V sur C. Donc, delta oméga, l'écart de fréquence. Ah, ça, c'est, tout ça, c'est des ordres de grandeur. Je laisse tomber les facteurs 2 et les facteurs pi. Hein. Delta oméga sur oméga de l'ordre de V sur C. Alors, delta oméga, c'est l'écart de fréquence. Oméga, c'est la fréquence du mode. V, c'est la fréquence, la vitesse du tourbillon, la vitesse associée au tourbillon, et C, c'est la vitesse du son. Alors, vous rappelez que C, c'est racine de mu sur m. Mu, potentiel chimique, sur m, la masse. Alors, on peut être mal à l'aise d'utiliser la vitesse du son pour un problème qui n'est pas avec une longueur d'onde petite devant les dimensions de l'objet qu'on étudie. Donc, on va essayer de faire ça un peu plus proprement. L'ellipse, ici, elle tourne en un temps qui est 1 sur oméga, et en un temps qui est 1 sur oméga, elle parcourt quelque chose qui est de l'ordre de la circonférence du cercle, à vecteur de près. Donc la vitesse C, avec laquelle associée au mode plus 2 ou au mode moins 2, c'est de l'ordre de grandeur du rayon, du condensat, de pi r, divisé par le temps, la période, 1 sur oméga. D'accord? Donc, j'en déduis que oméga égale de l'ordre de CR. Alors, par ailleurs, nous savons qu'à la limite de Thomas Fermi, le rayon du condensat est donné par la condition que 1 demi de m oméga 0, m oméga 0 2 par 2 égale nul. Attendez, là je me suis trompé, c'est la vitesse. C'est R divisé par un temps, donc c'est C égale oméga R, bien sûr. C égale oméga R. D'accord. Alors, oméga c'est de l'ordre d'oméga 0, donc oméga R c'est de l'ordre de C2, et je trouve bien que C2 égale mu sur L. D'accord. Donc je trouve bien que C égale racine de mu sur L. Alors, que vaut V? La circulation du tourbillon est quantifiée, donc 2π sur R, 2π R, V, de l'ordre de H sur M. Donc V de l'ordre de H bar sur MR. Alors j'en déduis que delta oméga de l'ordre de oméga V sur C. Alors oméga sur C c'est 1 sur R, donc c'est de l'ordre de V sur R, et c'est de l'ordre de H bar sur MR2. Et H bar, d'après cette formule-là, c'est MRV, c'est le moment cinétique. D'accord? C'est le moment cinétique du tourbillon. Donc, par atome, donc ça c'est de l'ordre de LZ sur MR. Et nous trouvons donc une formule très intéressante, très importante, c'est que delta oméga, c'est de l'ordre de LZ, le moment cinétique par atome du tourbillon, divisé par MR2. Alors, quand j'y suis, je voudrais encore continuer quelques remarques sur ces ordres de grandeur. Est-ce que la vitesse du tourbillon, la vitesse associée au tourbillon, est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est petite devant la vitesse C associée au mode? Elle est petite, puisque j'ai utilisé une formule delta oméga sur oméga égale V sur C. Mais vérifions-le. Calculons à quoi est égal V sur C. Et calculons V2 sur C2, parce que C c'est racine de mu sur N. V2, c'est de l'ordre de grandeur de H bar 2 sur N2R2. Et C2, c'est mu sur M, donc mu ici, M là. Donc, je vais avoir H bar 2 sur MR2, divisé par mu. Et si je remplace R2 par sigma 0,2, le carré de la dimension de la fonction de l'onde d'état fondamentale qui multiplie R2 sur sigma 0,2, je peux mettre ceci sous la forme H bar 2 sur M sigma 0,2, que multiplie sigma 0,2 sur R2, divisé par mu. H bar 2 sur M sigma 0,2, c'est H bar oméga. Donc j'aurai H bar oméga 0 sur mu, que multiplie sigma 0,2 sur R2. Alors, je sais que dans un condensat, mu est beaucoup plus grand que H bar oméga 0, donc ceci est très petit devant 1. Et je sais aussi que dans un condensat à la limite de Thomas Fermi, R, le rayon du condensat, est beaucoup plus grand que la fonction de l'onde de l'état fondamental de l'oscillateur, puisque le condensat a gonflé sous l'effet d'interaction, donc je m'aperçois que V2 sur C2 est très petit devant 1. Donc la vitesse associée au tourbillon est beaucoup plus petite que la vitesse de propagation du mode M égale plus 2 égale moins 2, et donc ça avait bien le droit d'écrire une formule perturbative de ce type. Et enfin, une dernière remarque que je voulais faire au sujet de ce petit calcul d'ordre de grandeur, c'est que quand on a étudié la fréquence des modes, vous vous rappelez que on obtient toujours pour les fréquences des modes, y compris dans la limite de très grand nombre d'atomes, dans la limite de Thomas Fermi, on obtient toujours des valeurs qui sont oméga 0 ou oméga perpendiculaire, qui multiplient racine de 5, racine de 2, etc. Autrement dit, on trouve toujours que la fréquence des modes de vibration est proportionnelle à la fréquence non perturbée dans l'oscillateur oméga 0 ou oméga perpendiculaire. Et à première vue, ça, c'est troublant. On pourrait se dire, quand il y a des interactions, elles devraient se manifester sur la fréquence des modes. Comment se fait-il que la fréquence des modes ne dépende pas des interactions? C'est-à-dire ne dépend pas de la longueur de diffusion, A, et ne dépend pas du nombre d'atomes, N. Ben, la réponse est donnée par cette formule ici. On voit ici que, et celle-ci, voilà, R divisé par la période. Donc, on voit que oméga, c'est donné par quelque chose qui est C sur R. Or, C varie comme racine de mu, C est bien proportionnel à la racine carrée du potentiel cinétique, donc la vitesse de propagation du monde, dépend bien, elle, de la force des interactions. Elle dépend de mu. R, ici, si je viens à cette formule qui nous donne le rayon du condensat à la limite de Thomas Fermi, oméga 0,2, R2, c'est mu, donc R est proportionnel à la racine de mu. Donc, chacun des deux termes qui apparaît dans l'expression d'oméga dépend de mu, donc dépend de AN, et en fait, nous savons que mu varie comme AN à la puissance 2 cinquième, et que R varie comme AN à la puissance 1 cinquième, donc mu et R dépendent tous les deux de A et de N, mais le point amusant, c'est qu'ils ont tous les deux la même dépendance, et que cette dépendance se simplifie, que par conséquent, oméga ne dépend plus ni de A ni de N. D'accord ? Et une raison plus profonde de cette particularité tient à la remarque que j'avais faite dans le premier cours de cette année, pour vous montrer que les ondes de surface, les ondes M égale plus 2 et moins 2 que j'étudie ici, ces ondes de surface correspondent à des déformations sans compression du fluide local, et qu'elles sont entièrement déterminées par la force qui agit sur les particules, la force de Kayser, à la surface du condensat, et que ça a tout à fait la même relation de dispersion que les ondes de gravité à la surface de l'eau. Donc c'est ça la raison profonde. Et on comprend ici pourquoi les fréquences des modes propres des vibrations ne dépendent pas des interactions. Bon, après ce petit intervalle sur les ordres de grandeur, qui est rédigé dans les notes, qui est au tableau pour le faire plus lentement, je reviens à la suite. Et je vais juste garder la formule d'ordre de grandeur que j'ai obtenue, qui est que delta oméga est de l'ordre de grandeur de h bar sur nr2, c'est-à-dire encore de lz sur nr2. Bon, alors c'est ce que je faisais ici, donc je passe sur ces problèmes. Et j'essaie maintenant de faire un calcul plus précis à partir des règles de somme. Alors pour cela, il faut d'abord que j'identifie les opérateurs qui excitent les modes m égale plus 2 et m égale moins 2 pour en déduire ensuite la densité spectrale et les moments correspondants. Alors, nous savons que l'opérateur qui excite les modes m égale plus ou moins 2, c'est un opérateur s plus moins puissance moins j oméga t plus hermétique conjugué, où s plus moins c'est la somme sur toutes les particules de A, ici c'est 1, 1 à n de f plus de rk, où s plus moins c'est x plus ou moins y au carré. En effet, quand je remplace ça par r sinus theta puissance ici, j'obtiens cette quantité là, c'est r perpendiculaire au carré et puissance plus ou moins 2 x. Donc les opérateurs importants, c'est les opérateurs s plus moins égale x plus y ou moins y au carré. Et les densités spectrales, elles sont notées ici. Je prends l'état fondamental, l'état du condensat qui peut être soit l'état fondamental, soit l'état d'un tourbillon. S'il y a un état excité quelconque, l'élément de matrice de S plus ou moins entre psi et psi n en module au carré, je multiplie par une fonction delta qui est centrée à la fréquence de bord et n moins 0, et je somme sur n. D'accord ? Donc j'ai une série, la densité spectrale, c'est une série de fonctions delta aux fréquences propres du système, avec des poids qui sont les carrés des éléments de matrice correspondants. Et une fois qu'on a la densité spectrale, c'est une fonction de E ou de oméga, si l'on comprend E ou oméga comme variable, on peut définir les moments. Et dans le cours d'aujourd'hui, au lieu d'étudier les moments tout seuls, soit de S plus, soit de S moins, je vais introduire des moments qui vont intervenir à la fois M plus et M moins, et je vais écrire ici la définition de ces moments, parce qu'ils sont importants. Je vais définir le moment M plus ou moins de MP, moment d'ordre P plus ou moins, c'est égal à somme de 0 à l'infini de DE, en fait, pour être, que multiplie E à la puissance P, il faudrait mieux mettre de moins infini à plus infini parce que pi zéro n'est pas forcément l'état fondamental. Hein. Comme j'ai un état, pi zéro peut être un état un tourbillon et peut être négatif. Donc, somme de moins infini à plus infini de dE et puissance P, F plus de E, plus ou moins F moins de E. Alors, on va voir tout de suite pourquoi c'est important d'introduire cette combinaison. En effet, je vais d'abord calculer très simplement le moment le plus simple, qui est M0 moins. Si je prends M0 moins, d'abord, comme toujours, et ça c'est toujours la philosophie de la méthode des moments, on peut remplacer chaque moment par la valeur moyenne dans l'état de départ, psi 0 ici, d'un commutateur. Et comme on sait ensuite calculer les commutateurs à partir de relations de commutation canoniques, on peut obtenir des expressions exactes pour les moments. Alors, je vais vous montrer que M0- ce n'est rien d'autre que la valeur moyenne dans psi 0 de S-F+. En effet, S-F+ commutateur, ça je peux le faire, c'est facile, c'est un peu plus facile. Les autres ne les feraient pas, hein, sont un peu plus longs. S-F+, F-F+, moins F+, F-. On introduit entre ces deux opérateurs la relation de fermeture sigma n de psi n, psi n, et j'obtiens sigma sur n de psi n F+, psi 0 au carré, ça vient de ce terme-là, moins, il faut partir maintenant de S-, psi 0 psi n, module au carré, et ceci, ce n'est rien d'autre d'après cette formule que m0. Et comme ce commutateur est nul, puisque f plus et f moins sont tous les deux opérateurs qui ne dépendent que de x, j'en déduis que m0 moins égale 0. Alors, ensuite, pour aller plus loin, là, on va introduire une approximation. Jusqu'à présent, c'est une partie d'approximation. Pour aller plus loin, je vais introduire une approximation. Et j'ai supposé que dans S plus, d'une part, dans S moins, d'autre part, sur tous les états psi n qui interviennent dans S plus et S moins, il y en a un qui épuise la règle de somme. C'est-à-dire qu'il y a une transition pour S plus et une transition pour S moins qui est très largement prédominante par rapport à toutes les autres. D'accord? Et donc, c'est pas la peine de... La sommation sur n se réduit à un seul terme pour S plus et un seul terme sur S moins. Alors, ceci, c'est ce qu'il apparaît l'hypothèse des transitions prédominantes, et ça veut dire que S plus de E, ça va être... Et la transition qui est prédominante, c'est le mode de M égale plus 2 pour S plus, et c'est le mode M égale moins 2 de fréquence oméga plus pour M égale plus 2, et fréquence oméga moins pour M égale moins 2. Il pourrait y avoir des multipolarités d'ordre plus élevé, mais avec M égale plus 2 ou moins 2. C'est là que je considère qu'elles auront un poids extrêmement faible. Donc je vais poser S plus de E égale sigma plus delta de E moins h bar oméga plus, et S moins de E égale sigma moins delta de E moins h bar oméga moins. Où sigma plus et sigma moins sont des nombres positifs représentant le poids de la composante à oméga plus et le poids de la composante à oméga moins. Alors, que vaut M0? Eh bien, M0, quand je remplace P par 0 là-dedans, c'est F plus moins S moins. L'intégration sur E de la fonction delta me donne M0, c'est M0 moins, qui est donc égal à sigma plus moins sigma moins. Et ça, c'est égal à 0. Ça, la première règle de somme que j'ai ici, à savoir que M0 moins égale 0, entraîne que les deux raies ont même poids. La raie à oméga plus et la raie à oméga moins. Si les deux raies ont même poids, ça va me donner des formules très simples pour M1+. Qu'est-ce que vaut M1+? M1+, ça va être sigma plus carré, sigma plus, pardon, alors, h bar oméga plus sigma moins, h bar oméga moins. Hein, dans l'intégrale ici, quand je vais remplacer P par 1, quand je fais l'intégrale sur S plus, S moins, en remplaçant par ces quantités, l'intégrale sur E va consister à remplacer E par H bar oméga plus pour S plus, et par H bar oméga moins sur S moins. Si sigma plus est égal à sigma moins, ceci, ça va être égal à sigma, en appelant la valeur commune de sigma plus et sigma moins à sigma, H bar oméga plus oméga moins. Quant à M de moins, ça va être égal à sigma plus h bar 2 oméga plus carré, plus moins Jupiter, moins ici, moins sigma moins h bar 2 oméga moins carré. Et comme sigma plus est égal à sigma moins, ça serait égal à sigma h bar 2 oméga plus au carré moins oméga moins au carré. Et je m'aperçois à ce moment-là que si je prends m2 moins sur m1 plus, ça, ça va être égal. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 ici, c'est sigma. Et sigma vont se simplifier, et je vais avoir h bar, oméga plus carré moins oméga moins carré sur oméga plus oméga moins, ça c'est oméga plus oméga moins, et que multiplie oméga plus moins oméga moins, et je vais avoir h bar oméga plus moins oméga moins. Et ça c'est une formule très importante, ça me montre que s'il n'y a que deux transitions prédominantes, si je suis capable de calculer m de moins et m de plus, et j'en fais un rapport, j'obtiens directement la quantité que je recherche, qui est l'écart de fréquence entre oméga plus et oméga moins. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici sur les transparents, donc j'ai refait exactement le même calcul. Et l'intérêt de la méthode des moments, c'est que, comme nous l'avons déjà vu à propos du cours 2, tous les moments peuvent être mis sous forme de valeur moyenne de commutateur dans l'état fondamental du condensat ou dans l'état d'un tourbillon, et que, comme on connaît les relations de commutation canoniques, tous ces commutateurs peuvent être calculés exactement, et que donc l'hypothèse des deux transitions prédominantes me permet d'obtenir une expression qui relie oméga plus moins oméga moins à des valeurs moyennes de grandeur physique dans l'état à un tourbillon du condensat. Voilà le programme donc clairement exposé. Et maintenant on peut passer donc au cas. Oui. Pourquoi pas? Exact. Pourquoi pas un moins, oui. Ce qui se calcule moins facilement que M1 plus et M2 moins. Vous avez une très bonne remarque, effectivement. Nous allons voir que les calculs de M1 plus et M2 moins sont plus commodes que les autres calculs. Mais vous avez raison, je n'ai pas pensé à ça. Je crois qu'il faudrait regarder si le calcul de M1 moins est faisable ou non. Si le commutateur qui apparaît dans M1 moins est agréable à manipuler ou non. Et c'est une très bonne remarque. Merci. Donc je calcule dans M1 plus et M2 moins. Alors, je donne uniquement les grandes lignes du calcul parce que c'est un peu pénible. Hein. Il se trouve que M1 plus, on peut montrer que c'est la valeur moyenne en 6 euros du commutateur de S- avec HF plus. Alors pour cela, on développe ce double commutateur, on fait apparaître 4 termes, 2 avec H au milieu, et 2 soit avec H à droite, soit avec H à gauche, et il y a donc 4 termes. Les deux termes qui proviennent de H au milieu, on met la relation de fermeture, ça va faire apparaître EN, soit avec l'élément de matrice de F+, soit avec l'élément de matrice de F- entre psi 0 et psi n au carré, et ceux où il y a H soit à droite, soit à gauche, ça fait apparaître E0, en mettant la relation de fermeture ici sur Cn, et ces deux quantités-là. Et en regroupant tout ça, je retrouve cette formule qui n'est rien d'autre que M1+. Alors, je rappelle, alors, la Hamiltonienne, c'est la Hamiltonienne exacte, hein, somme de l'énergie cinétique, de l'énergie de piégeage, de l'énergie d'interaction, où l'énergie de piégeage, donc, est le potentiel harmonique avec oméga perpendiculaire et oméga n, et les seuls termes de H qui ne commutent pas avec F+, F-, c'est ce terme d'énergie cinétique, puisque F plus F moins ne dépendent que de X et de Y. Et un calcul sans malice donne l'expression suivante de M1 plus, dit N H bar sur M, valeur moyenne de R perpendiculaire au carré, 0, c'est 8 N H bar 2 sur M, valeur moyenne de X2 plus Y2, 0. Alors, vraisemblablement, si je reviens en arrière, c'est que le calcul de M1 moins se prête moins à mettre M1 moins sous forme d'un commutateur de ce type. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé ça de près. Pardon? Non, parce que j'ai sigma plus égale sigma moins, donc j'ai... Bon, j'ai démontré que sigma plus égale sigma moins, parce que M0 moins égale 0. Bon, donc sigma plus égale sigma moins. Donc si j'étais capable de calculer M1 moins, j'aurais tout de suite oméga plus l'autre maternelle. Vous avez parfaitement raison. Alors, effectivement, vous avez raison, il faudrait en plus calculer. Voilà, je crois que la réponse est là. Il faudrait en plus calculer sigma. Parce que là, ça ne simplifie pas. L'intérêt de calculer. Oui, oui, bien sûr, la réponse est là. L'intérêt de calculer deux moments, c'est que quand on fait le rapport des deux moments, les carrés des éléments de matrice de F qui ne sont pas communs à calculer disparaissent. Et effectivement, je me rappelle que dans le cours 2, pour calculer une fréquence donnée, j'avais calculé M3 sur M1, et puis M1 sur M-1. J'avais chaque fois calculé un rapport de deux moments, et dans ce rapport de deux moments, les éléments de matrice en allaient, et je n'avais que le rapport des fréquences. Vous avez raison, la raison est là. Il faut au moins deux moments pour avoir quelque chose qui ne dépend plus des forces oscillateurs. Bon, alors, M de moins, alors, j'ai refait personnellement tous les calculs en détail, ils sont un peu pénibles et longs, surtout pour M de moins. Je vous donne simplement le résultat parce que c'est inexposable comme ça dans un amphi, hein, c'est ce genre de calcul. J'ai pas un moment rédigé un appendice et puis j'ai pas eu le temps. Alors, M de moins, c'est la valeur moyenne en psi 0 du commutateur. Ah, là, je me suis trompé, il manque en plus un commutateur ici. Hein. Il y a un commutateur qui manque. C'est le commutateur du commutateur de F1 avec H avec le commutateur de H avec F+. Donc il manque ici rajouter un commutateur. Donc on a un commutateur entre deux commutateurs. Alors quand on calcule ce quadruple commutateur, ici on a trois types de termes. Des termes où H2 est au milieu, entre F+, F- ou F- F+. Des termes où H est soit à la fois à droite et à gauche, et puis j'ai au milieu, soit F moins F plus, soit F plus F moins. Et des termes sandwich où j'ai deux H en sandwich entre deux F, soit les deux H à droite, soit les deux H à gauche, et puis soit F plus puis F moins, soit F moins F plus, et ainsi de suite. Donc, les quatre types de termes. Ces termes-là, quand je mets la relation de fermeture, vont me donner des termes en N carré. Ces termes-là ont des termes en N 0 carré. Et puis, ces termes-là, le H qui est à l'extrémité d'un côté ou de l'autre va me donner un N 0, le H qui est au milieu va donner un N. Ça va nous donner des termes E0 et N. Et quand on les regroupe, on va voir apparaître E0 moins N au carré, puis M de moins. Donc, le calcul ici n'est pas très compliqué. Ensuite, quand on calcule le commutateur, là c'est un peu plus long, mais ça utilise uniquement les relations de commutation entre X et PX, Y et PY, Z et PZ, et on obtient cette formule, M de moins égale 16 H bar cube N sur M, la valeur moyenne dans l'état du condensat de XPY moins 4PX, qui n'a rien d'autre que LZ. Donc 16 H bar 3 N sur M, LZ 0. Et en divisant M de moins par M1 plus, d'accord, on revient. M1 plus, vous voyez que les M, les N, il va y avoir des grandes simplifications, et j'obtiens, ah, voilà, j'obtiens ici cette formule que je vais réécrire au tableau, parce que c'est la formule centrale. On obtient que oméga plus moins oméga moins est égal, là c'est plus de l'ordre de 2 sur m, dans la moyenne de r perpendiculaire au carré dans l'état du condensat, que multiplie la valeur moyenne de Lzn dans l'état du condensat. Et si je compare malheureusement cette formule avec celle que j'avais tout à l'heure, je n'avais pas le facteur 2 tout à l'heure, j'avais ici r2 au lieu de r perpendiculaire au carré, mais vous voyez, je retrouve bien le même ordre de grandeur. Voilà donc une expression quantitative, pourvu toutefois que l'approximation des deux transitions prédominantes soit justifiée. Bon, alors j'aborde maintenant donc un problème de la discussion de cette approximation, et je vais faire un traitement plus précis. Alors, on sent bien, et ça c'est un problème, une situation générale, c'est quand le condensat est très, très fortement collectif, c'est-à-dire quand il y a un grand nombre de particules, qu'il y a une transition prédominante par rapport à toutes les autres. C'est donc à la limite de N très grand qu'on s'attend à ce que l'approximation des deux transitions prédominantes soit valable. Par contre, quand N est petit, c'est plus évident, et on va le voir en prenant un contre-exemple. On va prendre le cas d'un gaz parfait, parce que dans le gaz parfait, on peut tout calculer, et on va voir effectivement que pour un gaz parfait, il n'y a pas seulement que deux transitions prédominantes. Donc, je vais prendre donc un traitement plus précis maintenant, essayant d'améliorer l'approximation des deux transitions prédominantes, et pour montrer sa nécessité, j'ai commencé par étudier le cas du gaz parfait. Alors, effectivement, dans un gaz parfait, on peut tout calculer exactement, et calcul des fréquences des modes de surface M égale plus 2 et M égale moins 2 est simple, et peut-être fait sans approximation. Et à ce moment-là, on verra que les résultats obtenus, on verra clairement s'il y a oui ou non deux transitions prédominantes. Si il n'y en a pas que deux, on pourra donc avoir des idées pour améliorer l'approximation précédente. Alors, pour un gaz parfait, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, si on a un problème à symétrie cylindrique et si on a un tourbillon d'axe Z, les degrés de liberté le long de l'axe Z ne sont pas excités, et donc le condensat va rester dans l'état fondamental du mouvement le long de l'axe Z. Donc je n'ai qu'à m'intéresser aux degrés de liberté transverse. Et si je m'intéresse uniquement aux degrés de liberté transverse, j'ai un oscillateur harmonique isotrope, puisque le condensat, le piège, a une symétrie cylindrique autour de l'axe Z. Et les états propres d'un oscillateur harmonique isotrope à deux dimensions peuvent être repérés soit par les nombres quantiques nx et ny, nombre de quanta sur x sur cy, soit par les nombres de quantiques, les nombres de quanta circulaires droit ou circulaires gauche. En effet, alors ça c'est un exercice classique de mécanique quantique hein, qu'on trouve dans tous les bouquins. Si on prend ax plus iy au carré, ax croix plus i à y croix sur racine de 2, et ax croix moins ax moins i à y sur racine de 2, on définit deux nouveaux opérateurs de création et d'annulation de comptage circulaire droit et gauche. En effet, ax croix plus i à y croix crée des fonctions d'onde x plus y, et ça, c'est quelque chose qui tourne bien dans le sens droit. Et si je prends maintenant les autres combinaisons, ag croix égale ax croix moins i à y croix sur racine de 2, évidemment, l'opérateur adjoint AG, ça c'est l'opérateur création et destruction d'un quantum circulaire, gauche. Et les AD et AD croix, ça qui sont les relations de commutation canoniques, de même que les AG et AG croix, et ces opérateurs-là commutent avec cela. Donc au lieu d'avoir des quantas X, Y, on a des quantas G et D, et l'hamiltonien s'écrit H0 sapo égale H bar oméga perpendiculaire, AD croix AD plus AG croix AG plus 1/2, comme AX croix AX plus AY croix AY plus 1/2, donc ça, c'est facile. Par contre, pour LZ, qui est beaucoup plus sympathique, j'obtiens LZ égale H bar, AD croix AD moins AG croix AG, le moment cinétique, c'est H bar fois le nombre de quantas à droite moins le nombre de quantas à gauche, puisqu'on sait qu'un quantum circulaire droit, un moment cinétique plus H bar, et un quantum circulaire gauche, un moment cinétique moins H bar. Et, maintenant, quel est l'état du condensat avec un tourbillon? C'est l'état dans lequel tous les bosons sont condensés dans l'état le plus bas de moment cinétique plus H bar, c'est-à-dire dans l'état Mg égale 0, Nd égale 1. Aucun quantum gauche, un quantum circulaire droit. Donc tous les atomes sont dans l'état 0G, 1D. Et comme il faut que j'étudie les éléments de matrice de X plus Y au carré, il faut que je parle de l'expression de X, Y en fonction de AX et AX croix, et puis j'utilise les formules précédentes pour exprimer x plus y et x moins y en fonction de ag, ad, ag croix, ad croix. Et on trouve après un calcul sans malice, x plus y égale sigma 0 perpendiculaire, la largeur typique de l'état fondamental de l'oscillateur, qui multiplie ag plus ad croix. Effectivement, x plus y crée une unité de moment cinétique, et pour créer une unité de moment cinétique, soit je crée un quantum droit, soit je détruis un quantum gauche. Chaque fois, je fais varier le moment cinétique d'une unité. Et de même, x moins y, c'est sigma 0 perpendiculaire, ag croix plus ad. Je crée un quantum gauche ou je détruis un quantum droit. Voilà donc les expressions de x plus y. Alors, je passe tout de suite, et je reviendrai sur la figure après. Alors, ceci étant, à quoi est égal x plus y agissant sur 0g 1d? Je remplace x plus y par son expression. AG croix plus AD croix 0G 1D. J'ai oublié ici un sigma 0 perpendiculaire qui apparaît ici. Et AG croix agissant sur le vide, ça me donne 0. Et AD croix agissant sur 1, D, ça me donne 2 avec la racine carrée du plus grand des deux N qui sont reliés, racine de 2. Donc, ceci, c'est sigma 0 perpendiculaire, racine de 2 fois, 0g de d. Et f plus, agissant sur 0g 1d, c'est x plus y au carré, 0g 1d. Donc c'est x plus y agissant sur cet état-là, donc c'est sigma 0 racine de 2, x plus y, 0g 1d, 2d. D'accord ? Et je remplace x plus y par sigma 0 perpendiculaire, ça fait un carré ici, racine de 2, a décroît ag, 0g 2d. AG agissant sur le vide donne toujours 0, et AD décroît agissant sur 2, va me donner 3, avec racine carrée du plus grand des 2, racine de 3. Donc racine de 2, racine de 3, ça fait racine de 6, et j'obtiens finalement que F plus agissant sur 0G 1D, me donne 0G 3D, avec un coefficient qui est sigma 0 carré, racine de 6. Alors ça, ça paraît clairement sur la figure précédente. J'ai représenté ici les états d'oscillateur par des barres horizontales d'énergie alpha oméga perpendiculaire, 2 alpha oméga perpendiculaire, 3 alpha oméga perpendiculaire, et puis par les nombres quantiques ND, NG. Ça, c'est l'état fondamental. Ça, c'est 0G, 1D, 1G, 0D, qui sont dégénérés, et tous les atomes sont dans cet état. Ils sont condensés dans l'état 0G, 1D. Et puis ici, j'ai 2G, 0D, 1G, 1D, 0G, 2D, et ainsi de suite. Alors, si je pars de là et que je fais agir x plus y au carré, x plus y augmente le moment cinétique d'une unité, donc je vais de là à là, puis de là à là. Donc je vais de 0g1d à 0g3d avec un racine de 2 ici, un racine de 3 ici, ça fait un racine de 6. Alors, je ne vais pas refaire le calcul, mais on va regarder les calculs sur la figure ici. Si je prends maintenant moins, f moins carré. Alors, un premier coup, je pars de là, sigma moins, je détruis soit un quantum droit, et je passe donc de 0G 1D à 0G 0D, soit je crée un quantum gauche, et je passe de 0G 1D à 1G 1D. Puis après de là, ou de là, je continue, et fais une deuxième fois. Ou ici, je ne peux que créer un quantum G, parce que je ne peux plus détruire de quantum D. Donc je crée un quantum G, j'arrive ici. Et l'élément de matrice ici, ça va être un racine de 1, un racine de 1, donc 1. Et une fois que je suis ici, j'ai le choix encore entre deux possibilités, ou je détruis un quantum D, et je reviens à 1G, 0D, ou je crée un quantum G, et je passe de 1G, 1D à 2G, 1D. D'accord ? Donc vous voyez que, partant de là, je fais soit ce chemin, et j'arrive à 2G, 1D avec un racine de... Alors je passe de 0 à 1, donc racine de 1, et de là, de 1 à 2, racine de 2. Donc là, j'aurai la racine de 2. Soit je pars de là et j'arrive là avec deux chemins, celui-là et celui-là. Et celui-là, c'est les amplitudes qu'il faut ajouter. Hein, le même état initial, le même état final. Ici, j'aurai un racine de 1, racine de 1, 1, et racine de 1, racine de 1, 1, donc 2. Donc je pars de là à là, et j'arrive là avec un racine de 2. Je pars de là et j'arrive là avec un 2. Donc vous voyez que maintenant, partant d'ici, f moins au carré me relie l'état initial à deux états finaux. Donc je vais avoir deux fréquences qui apparaissent, et non pas une seule. Une fréquence avec la fréquence de bord correspondant à cette transition, 2 oméga perpendiculaires, et une deuxième fréquence avec la fréquence de bord correspondant à cette transition, qui est 0. D'accord ? Donc on voit que, quand je prends un gaz parfait, F plus, il n'y a qu'une seule transition qui est excitée à la fréquence oméga plus égale 2 oméga moins, 2 oméga, pardon. Donc F plus, une seule transition à la fréquence oméga plus égale 2 oméga perpendiculaires, et un poids qui est 6 sigma 0 perpendiculaire au carré, à la puissance 4 parce que j'ai au carré. Quant à F moins, petit calcul que j'ai fait tout à l'heure, qui est très facile à faire sur la figure. Il y a deux états finaux. L'état final 2G1D, qui aura donc une fréquence oméga moins, que j'appellerai F, pour suivre les notations de la référence de Sengari, 2 oméga perpendiculaires. Et une autre, oméga moins down, égale 0. Alors celui-là, c'était le racine de 2 au carré, donc il y aura un 2 sigma 0 perpendiculaire à la puissance 4. Et ça, c'était 1 plus 1, 2, 4 sigma 0 perpendiculaire à la puissance 4. Donc je m'aperçois maintenant que je n'ai pas deux transitions prédominantes, j'ai trois transitions prédominantes, parce que les trois forces oscillateurs 2, 4, 6 sont du même ordre de grandeur. D'accord ? Donc, mon approximation des deux transitions prédominantes ne marche pas à basse, pour un nombre d'atomes petit. Alors, ayant ceci, on peut maintenant essayer d'améliorer le traitement précédent, et c'est clair qu'on va améliorer, on va reprendre pour S plus une transition prédominante, et pour S moins deux transitions prédominantes. Et on va écrire S plus 2 égale sigma plus delta de E moins F bar oméga plus, et S moins 2E, au lieu d'écrire comme tout à l'heure sigma moins delta de E moins F bar oméga moins, je vais avoir sigma moins up delta de E moins F bar oméga moins up, plus sigma moins down delta de E moins F bar oméga moins down. Donc j'introduis des nouvelles inconnues dans mon problème, qui sont, au lieu d'avoir oméga plus, oméga moins et sigma, plus sigma moins, j'ai maintenant oméga moins, oméga plus, oméga moins up, oméga moins down, sigma plus, sigma moins up, sigma moins down. J'ai donc six inconnues. Et donc, la connaissance de trois moments n'est plus suffisante. Il faut aller plus loin. Il faut avoir plus de moments à sa disposition pour déduire des calculs des moments, les valeurs de ces quantités. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous donner ces calculs. Je me contente de donner... Ils ont été faits par Zambelli et Sangari. J'avoue que je ne les ai pas recommencés parce que c'est vraiment un peu assez lourd, hein, c'est compliqué. Mais c'est calculable, hein, sans... Il n'y a pas de difficulté de principe. Donc, il faut ajouter trois moments supplémentaires pour avoir suffisamment d'équations pour déterminer les six inconnus de tout à l'heure. D'accord ? Il faut donc calculer, alors c'est un peu alterné, tout à l'heure j'avais calculé M0 moins, M1 plus, M2 moins, donc calculer M3 plus, M4 moins, M5 plus. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on les met sous forme de commutateurs, et que ces commutateurs peuvent être calculés exactement, et on fait apparaître ces trois moments sous forme de quantités qui dépendent de h bar, oméga perpendiculaire, m, n, et puis de valeur moyenne dans l'état d'un tourbillon, de r perpendiculaire carré, de e, ça c'est l'énergie potentielle perpendiculaire, l'énergie cinétique perpendiculaire, et l'énergie d'interaction. Donc on a des expressions exactes pour le moment, avant d'avoir fait la confirmation des 1 ou 2 transitions, des 3 transitions prédominantes. Ces formules sont exactes. D'accord ? Alors, une fois qu'on a ces formules, donc on a 6 équations, où n'apparaissent que des quantités statiques, valeur moyenne dans l'état d'équilibre des condensats avec un tourbillon de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle, de l'énergie d'interaction, si on résout l'équation de Gross-Pitaïevski indépendante du temps qui décrit l'état stationnaire du condensat, si on la résout numériquement, on peut calculer numériquement ces grandeurs-là, et cinétique moyen, perpendiculaire, et potentiel perpendiculaire moyen, et d'interaction moyen. Donc, à partir de la résolution numérique de l'équation de Gross-Pitaïevski, on peut calculer donc tout ce qu'il faut pour calculer numériquement les six moments, M0 moins, M1 plus, M2 moins, M3 plus, M4 moins, M5 plus. À ce moment-là, on reporte ces six valeurs de M, ces six moments, dans les équations analogues à celles que j'avais écrites tout à l'heure, que j'ai malheureusement effacées, qui donnent M0 moins égale sigma plus, moins sigma moins, etc., M1 plus, avec l'hypothèse qu'il y a seulement une transition prédominante pour F plus et deux transitions prédominantes pour F moins. Donc on a six équations et six inconnues. Et en résolvant ces choses-là, on obtient donc maintenant toutes les quantités qui nous manquent, les forces oscillateurs et les fréquences oméga plus, oméga moins up et oméga moins down. D'accord ? Et voici le résultat de cette étude numérique qui est représentée ici. Alors dans la partie inférieure de la figure, c'est les forces oscillateurs, sigma plus, sigma moins down. Et vous pouvez être surpris, on ne voit pas sigma moins up. Elle n'a pas été mise parce que sigma moins up, ils devraient partir de 2 ici. Sigma moins up, c'était 2 sigma 0 perpendiculaire à la puissance 4. Ils devraient partir de 2, mais le calcul montre qu'il s'annule très vite. Donc, dès que n atteint quelques dizaines, sigma moins up a disparu. Il ne reste plus que sigma plus et sigma moins down. Autrement dit, il y a bien 3 transitions prédominantes à bas nombre d'atomes. Alors ici, on utilise, non pas N, mais N, la longueur de diffusion divisée par la quantité caractéristique de l'oscillateur harmonique que j'appelle moi sigma 0 perpendiculaire, et qui caractérise un petit peu la force des interactions dans le condensat. Hein. Vous voyez, dès que ce paramètre atteint quelques dizaines, il n'y a plus sigma moins. Hop. Et il n'a plus que 210 centrales dominantes, et dont les forces oscillateurs tendent très vite l'une vers l'autre, après elles deviennent indiscernables. Autrement dit, on trouve que dès que ce paramètre atteint quelques dizaines, il n'y a plus que deux transitions prédominantes dont les poids sont les mêmes. Et ici, sont représentées les fréquences correspondantes, oméga plus qui part de 2 oméga perpendiculaires, oméga moins down qui part de 0, et nous voyons que oméga moins down croît très vite, et puis au bout d'un certain temps, quand on arrive vers 60, 80, oméga plus et oméga moins down deviennent symétriquement disposés par rapport à la fréquence du monde en absence de tourbillon. Donc on trouve bien que la fréquence du mode de tourbillon se sépare en deux, oméga plus et oméga moins, symétriquement disposées l'une par rapport à l'autre. Elles n'ont pas l'air d'être symétriquement disposées, il faudra aller prendre des valeurs de phi condensée un peu plus grandes pour que ça arrive. Autrement dit, vous voyez que ce calcul numérique, il a l'intérêt de montrer d'abord, de faire la critique de l'approximation des transitions prédominantes, mais de montrer que dès que le nombre d'atomes d'un condensat atteint des valeurs telles que le paramètre qui atteint des valeurs de quelques dizaines, à ce moment-là, c'est une excellente approximation et ça donne confiance dans les résultats qu'on a obtenus tout à l'heure. Enfin, pour terminer, bon, ça c'est le commentaire que je donnais. Pour terminer ce cours, je voudrais faire très rapidement mention d'un travail qui a été fait par Roxar sur une autre géométrie de piégeage, qui est un peu limite parce que pour l'instant, bien sûr il y a des pièces toriques, mais je ne crois pas qu'il soit facile de réaliser pour l'instant des tourbillons dans des pièces toriques. Mais il a l'intérêt que les calculs ici peuvent être faits, les calculs des moments, au lieu de ne pas pouvoir les faire comme je n'ai pas pu le faire aujourd'hui, je vous ai simplement donné les résultats. Ici le problème est un problème à une dimension, et on peut faire tous les calculs explicitement jusqu'au bout. Donc dans cette référence 17, ce problème est examiné à partir de la théorie de Bogoliubov. Ici, je vais le faire de manière plus simple. Hein. Voilà, on a un tore de rayon R, et le rayon du tore ici, le diamètre est D, et je suppose que R est très très grand dans D. Et je regarde des mouvements du condensat, uniquement azimutaux, je n'indique toute excitation du mouvement transverse. Hein. Donc c'est un problème vraiment à une dimension. Alors, un tourbillon M égale 1, ça correspond à un mouvement de rotation d'ensemble du condensat, à la vitesse V égale H bar sur MR. Et qu'est-ce que c'est que les modes M égale plus 2 et M égale moins 2 dans cette histoire-là? Dans cette géométrie, je ne peux avoir que des modes de compression. On en dit un mode M égale plus 2 dans cette géométrie. Ça va être une déformation elliptique. Vous allez avoir un condensat, une onde comprimée ici, une onde comprimée ici. Et puis ici, une onde diluée, et ça tourne à la fréquence oméga plus sur 2 et oméga moins sur 2. Donc, la longueur d'onde de cette onde de compression, c'est la demi-circonférence, c'est donc πr. Donc, les modes m égale plus 2 et m égale moins 2 sont donc des modes de compression, des phonons, de forme elliptique, qui se propagent donc de cette manière-là. Avec une longueur d'onde qui va être le périmètre de la circonférence divisé par 2, qui est, là maintenant je fais un calcul précis, hein. Je n'élise pas les facteurs 1, les facteurs 2, les facteurs pi. Pi R propage à la vitesse C du son, et en absence de tourbillon, donc c'est oméga plus égale oméga moins, égale 2 pi C sur lambda, et 2, et comme lambda c'est pi R, c'est 2 C sur R. D'accord? Et pour étudier la modification de sa fréquence, on utilise la méthode des moments, exactement comme Vlon. Alors, dans ce cas-là, la Hamiltonienne non perturbée, comme je regarde uniquement le mouvement azimutal, c'est uniquement l'énergie cinétique transverse, c'est moins F bar 2 sur 2MR2, D2 sur DΦ2. D'accord? Je m'excuse ici, il y a vraisemblablement un plus ici. Hein. Il y a un plus ici. Donc c'est ceci. Et dans cette expression, je considère R comme un nombre, hein, parce que j'ai uniquement le mouvement azimutal qui est excité. Et quant à x plus y, c'est R et puissance ici au carré, ou R et puissance moins ici au carré, c'est R2 et puissance moins plus ou moins 2 ici. Et je peux donc prendre pour F plus F moins et puissance plus ou moins 2 ici, puisque R2 est un nombre qui va simplifier quand je prends le rapport de deux moments. Donc, j'ai finalement les deux autres opérateurs que j'ai à considérer, c'est puissance plus ou moins 2 ici, et D2 sur D2. je m'excuse, il n'y a pas de. C'est bien sigma ici, parce que quand je prends un déficient ici, D2 sur D2, ça fait I2 quelque chose, et I2 c'est moins 1, donc ça reçoit bien une énergie cinétique positive. Donc je ne suis pas trompé, hein, si c'est correct. Alors, les seuls commutateurs qu'on a calculés dans ce problème, c'est le commutateur de D sur DC avec efficience plus ou moins 2 ici, qui est égal à ceci, et le commutateur de D2 sur DC2, qui intervient dans la Hamiltonienne avec efficience plus ou moins 2 ici, qui est F plus moins, et D sur DC qui multiplie ce commutateur plus ce commutateur qui multiplie D sur DC, et en utilisant cette formule-là, on obtient que ce commutateur, c'est moins 4 efficience plus ou moins 2 ici, plus ou moins 4i efficience plus ou moins 2 ici, D sur DC. Donc voilà, on peut le calculer en trois lignes. On a ensuite M0 moins, comme tout à l'heure, c'est N, F plus F moins, c'est 0. A0, F plus, c'est le commutateur de D sur DC2 avec puissance plus ou moins 2 ici que j'ai calculé, déjà tout à l'heure. Et puis, ce commutateur qui apparaît dans M1 plus, qui est F moins A0, F plus, c'est le commutateur de E puissance moins 2 ici avec cet objet-là, qui se calcule sans difficulté. C'est trivial, et on trouve plus 2. Et on trouve donc exactement un calcul maintenant qu'on peut faire jusqu'au bout, que M1 plus, c'est 4N H bar 2 sur MR2. On peut aussi calculer sans problème M2 moins. Le commutateur de H0 avec S plus, c'est donné par cette quantité qui s'est déjà écrite dans un transparent précédent. Le commutateur de F moins avec H0, c'est donné par cette quantité. Et le commutateur des deux commutateurs, c'est commutateur de ceci avec ceci, qui fait apparaître, aucune difficulté, qui fait apparaître ID sur DC, il reste ID sur DC, et si on se rappelle que LZ, c'est H bar sur ID sur DC, en coordonnées cylindriques, on s'aperçoit que M2 moins, c'est la valeur moyenne de ceci, c'est 16 NH bar 3 sur M2 R4 LZ. Et finalement, quand on calcule, la formule qui est encore au tableau ici, oméga plus moins oméga moins égale 1 sur H bar, M2 moins 1 sur M1 plus, ces deux quantités sont bonnes, et on trouve 4 LZ sur MR2. Par rapport à tout à l'heure, on a un facteur 2 ici, 4 au lieu de 2 ici, et R, le rayon du tore, au lieu d'avoir R perpendiculaire ici, le rayon du condensat au carré. Alors ce qui est remarquable ici, c'est que le raisonnement d'ordre de grandeur que je donnais au début est exact quantitativement. En effet, il n'y a aucun facteur 2 qui manque. L'écart entre la fréquence oméga plus perturbée et la fréquence oméga plus non perturbée, c'est la moitié de l'écart entre oméga plus et oméga moins. Donc delta oméga, qu'il faut utiliser dans la formule delta oméga égale oméga d sur c, c'est oméga plus moins oméga moins sur 2. Hein, parce qu'on est au milieu des deux fréquences, donc c'est oméga plus moins oméga moins sur 2. Et donc, on a ceci. V, c'est h bar sur mr. Et oméga, c'est 2c sur r, comme tu calcules tout à l'heure. Et on trouve ici 2h bar sur mr2. Et quand on prend ces formules-là, on obtient oméga plus moins oméga moins égale 4h bar sur mr2. Donc on retrouve exactement le petit calcul d'ordre de grandeur que j'ai fait tout à l'heure. Si on le fait proprement, on trouve le résultat exact. Et ce petit modèle simple peut donner confiance et peut permettre de faire ce calcul pour des gens moins habitués ou à calculer sur les condensés. Et enfin, donc je donne mes références ici. Donc ceci, c'est l'article de Stringari, il y a une autre approche de hydrodynamique qui conduit au même résultat et qui est présentée dans cet article de CDC et CETER. Et ça, c'est l'article de Rockstar donnant ce modèle de condensat dans un tore avec un tourbillon. Et enfin, ceci, c'est pour le complément sur l'oscillateur harmonique isotrope à deux dimensions. Donc, je m'arrête là. Et si vous avez des questions à poser, je suis très reconnaissant à l'auditeur qui m'a fait la remarque de Oméga Plus. Pourquoi pas qu'il y ait un moins, parce que, évidemment, la réponse est qu'il ne faut sigma. Ah, mais il faudrait aussi calculer un 0 plus. Vous avez raison, mais il faut en calculer deux. Tout ce que je dis, il faut en calculer deux. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de regarder si un 0 plus se calcule facilement. En tout cas, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de regarder. Il faudrait aussi calculer M1 sur M-1. Calculer la susceptibilité, voir si on peut... Parce que M-1 est relié à la susceptibilité. C'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser sur le cours de ce matin ? Oui. Alan? Please, I have said English. I am not aware of papers having calculated this splitting, but I know that in the experiment they try to, because apparently the excitation of the mode M equals plus 2 and minus 2 is important for nucleating the condensate. And I think Jean will perhaps, Jean is here, Jean will describe experiment where they try to excite higher order modes for nucleating vortices. And yeah. I've not seen any paper on that topic. Hey. Thank you for the question. En tout cas, je trouve que la méthode des moments est une méthode extrêmement puissante. Et commode pour calculer ces effets qui seraient difficiles à calculer autrement. Ok, donc tout à l'heure, je pense que vous aurez des détails expérimentaux sur les tourbillons quantiques dans le séminaire de Jean. Les erreurs. Ah, c'est très gentil, parce que j'ai beau le faire, mais je...